Voilà, donc F6 GPX opère en F6 KGL. Et alors la communication est hachée. Alors ça, il y a encore, je pense, il y a des gens qui sont sur Internet. Alors si ça se trouve, c'est ça qui pose quelques problèmes. Donc, j'espère que ça perturbe pas trop. Donc on continue sur notre plan de bande. On continue sur notre plan de bande. Ce qui est important aussi dans les bandes satellites, c'est que l'UIT a défini trois statuts pour les bandes satellites. Soit il y a des statuts qui permettent à la fois l'émission et la réception sur la même bande. Et c'est le cas, de figure le plus courant. Mais il y a aussi la possibilité de n'avoir que la liaison dans un seul sens, c'est-à-dire de la Terre vers l'espace ou de l'espace vers la Terre. Donc on peut pas parler et recevoir en même temps. D'ailleurs sur les fréquences satellites, on a toujours une fréquence de montée et une fréquence de descente. Alors le tout c'est de savoir si c'est dans la même bande ou pas. Donc il y a pour certaines bandes où on peut faire la montée et la descente sur la même bande, mais sur d'autres bandes on ne peut pas le faire. Et au niveau des satellites, il n'y a pas de question de région là, puisque le satellite par définition on ne peut pas savoir définir au préalable au-dessus de quelle région il va se trouver. D'accord ? Donc le trafic par satellite. Et ça fait partie, ça, des questions, malheureusement, de l'examen. Alors, ce qui est... Donc, faut faire attention à ça. Alors, le code aussi, parce qu'il y a tout un code, lorsqu'on est en trafic amateur, ça s'appelle un code AMAT. Lorsqu'on est en satellite, c'est AMATSAT. Et lorsqu'on, ou AMS, amateur satellite, et lorsqu'on est en amateur satellite de la Terre vers l'espace, c'est AME, et de la Terre vers l'espace, c'est AMT. Ça fait beaucoup, ça. Mais ça, c'est des... Alors, j'ai vu quelques questions qui, quand on demandait dans quel sens la liaison AMS était possible, par exemple. Alors, si on ne sait pas ce que c'est AMS, ça commence bien, ça commence mal. Donc AMA, ça veut dire liaison d'amateur, donc c'est région 1 ou région 2, c'est les stations terrestres. AMS, c'est les stations satellites dans les deux sens. AME, c'est espace vers terre, et AMT, c'est terre vers espace. Voilà. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, auparavant, mais il y a de ça bientôt 10 ans maintenant, les textes nous imposaient des types de classes d'émissions particulières, comme par exemple la télévision. La télévision n'était possible que sur certaines bandes. Et maintenant, il n'y a plus à connaître ces sous-bandes. L'ARCEP ne peut plus nous imposer des sous-bandes, en fait. On utilise, alors le mieux c'est d'utiliser quand même les sous-bandes qui sont définies par l'IARU, c'est-à-dire l'Union Internationale des Radioamateurs, mais ça se limite à ça. Ça, je dirais que c'est du bon sens, ça. Mais l'administration ne nous impose plus une classe d'émission particulière, enfin, au moins, c'était plus exactement des classes d'émission qui était limité pour certaines bandes. En clair, c'était souvent la télévision, d'ailleurs, qui était... puisque la télévision nécessite une bande très large. Et donc, en fait, il y a très peu de bandes où on peut faire de la télévision. En 430 mégas, on peut difficilement le faire, tout au moins en région parisienne, avec tous les problèmes qu'on a. Et puis en HF, c'est impossible. La bande n'est pas suffisamment large. Il faut grosso modo entre 3 et 4 mégas pour passer un signal de télévision. Donc quand on Et puis au-delà de 10 gigas, disons, c'est difficile de faire de la télévision. Donc en fait, les bandes typiquement télévision sont relativement réduites. Ça concerne essentiellement l'UHF. Donc le 430 mégas maintenant, c'est difficile. Le 23 cm et le 13 cm. Il ne reste plus que ces deux bandes-là. Puisque au-delà, quand on commence à aller sur le 5 cm, il faut quand même avoir du matériel suffisamment très, très pointu. Il y a des gens qui le font, hein, mais c'est quand même pas le plus facile à faire. Quand on commence sur 1200. Ah, alors, le son est toujours très haché ce soir. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, ça hache de plus en plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vais poser la question à mon informaticien de service. Hein, Bernard, on me dit que c'est de plus en plus haché. Ah bah ça, je sais pas. Alors là, là c'est. Est-ce que c'est toujours haché? Parce que là, apparemment, quel est le codec utilisé? Alors le codec utilisé, c'est le 7,2. Ah, attends, où est-ce que je l'ai, mon 7,2? Alors, moi, je suis sur 9,3. 9,3 kilobits, là. Donc, le codec, normalement, est largement suffisant, normalement. Et là, j'ai demandé à ce que les connexions Internet soient à peu près... qui en aient pu. Et apparemment, vous pouvez me donner un message si c'est mieux ou pas. J'attends vos commentaires et on reprend. Je vais laisser un petit blanc sur 144 F6 GPX au port F6 KGL. Voilà, donc F6 GPX au port F6 KGL. Alors là, on a coupé le cluster, là, parce qu'il y en avait... Il y a les fanas du DK, les fanas du DK qui étaient sur le cluster. Alors je sais pas si c'est ça, mais apparemment c'est pas mieux. Donc il y a vraiment un truc, il y a vraiment un problème de débit là. Est-ce que pour moi c'est mieux? Ah, ça a l'air d'aller mieux. Donc c'est peut-être le cluster qui rafraîchit trop rapidement. Ouais. Bon, bah écoute, apparemment ça redevient mieux. C'est toujours haché, mais un peu moins haché. Mais bon, c'est bizarre quand même que ce soit toujours haché comme ça. Normalement, il n'y a pas de problème de débit ici. Ah bah voilà, ça y est, c'est plus du tout haché. Ça a l'air de s'être stabilisé. Bon bah Christian, interdit de cluster. Va falloir jouer du VFO, hein, c'est con. Hein. Bah, apparemment, ouais. Ouais, allez donc. Donc apparemment il y a vraiment des problèmes ce soir. Pourtant on n'est pas plus que d'habitude, on est 11 connectés, donc normalement ça devrait pas poser de problème. Bon bah écoutez, on va essayer, on va continuer comme ça. Hein. Donc plus de chasse présidentielle pour pour Christian, dépité à l'ancienne. On va revenir à l'ancienne. Bon bah alors ça y va là. Bah je vais réduire le débit alors. Parce que là, j'étais en 9-3. Alors, comment... c'est où que je vais? Hein? On dirait sur les pointes de... Ouais, ça coupe. Donc on va réduire le débit, on va se mettre à 7-2. Ou 5-2 même. Bon, 5-2, ça risque d'être juste. Hein. Donc là, je suis passé à 7-2. Je suis passé à 7,2 kilobits. Je ne sais pas si c'est tellement mieux. Vous pouvez me dire ça. Et puis je pense pas que ce soit, enfin c'est pas le casque lui-même parce que je pense pas que ce soit ça qui pose problème. Bon, je vais faire un petit blanc sur c'est pire. Ouais, apparemment non, que c'est toujours pareil. Donc il y a vraiment un truc qui se passe là avec TeamSpeak. Parce que j'enregistre aussi. Je vais couper l'enregistrement, c'est peut-être ça. Hein. Mais la semaine dernière, je... Alors apparemment, il n'y a plus de coupure là, mais bon, c'est ça. Hein. Donc il faudrait ouais en prioritaire, mais ça veut dire quoi que...
Ben, je vais voir peut-être en mettant les autres machines en 10 mégabits et laisser celle-là à 100 mégabits peut-être.
Ah oui, sur le réseau là, sur le réseau interne. Ouais. Bon, bah, écoute hein. On va y arriver. on va y arriver. Donc je pense que là ça marche un peu mieux. Tu me dis, Didier, si t'es toujours là, si c'est bon, F6 GPX, opérant F6 KGL.
Ouais, non, il n'y a pas de problème. Il y a un tour là-dedans. Non, c'était pas mal. C'était pas mal. Je pense que t'es.
Je sais pas, j'ai pas changé par la semaine dernière. Hein. Je l'éloigne un peu de ma bouche, mais bon, c'est pas. Je pense pas que ce soit ça parce que c'est la position correcte du casque. Hein. Ok, on va continuer comme ça. Alors merci Didier et puis à plus. Ok, donc bon, on reprend le cours là. On reprend le cours et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce tableau des fréquences. Alors encore un truc important lors de l'examen, il faut faire très attention aux multiples, enfin plus exactement et aux multiples utilisés. C'est-à-dire qu'il y a des pièges entre les mégahertz et les kilohertz. En particulier pour les largeurs de bande. La largeur de bande, en règle générale, c'est de l'ordre du kilohertz. Et quelquefois, dans les réponses, on a du mégahertz. Donc, ne fera très attention à cette différence. De même, on a certaines fréquences, dans les fréquences très élevées, où on va se retrouver en gigahertz. Là, le tableau que j'ai mis, c'est un tableau qui est en mégahertz. Donc, il y a au départ, il y a des virgules, 0,1357, ça veut dire qu'on est sur 6,7 kHz. Hein? Et plus on descend dans le tableau, à la fin, il y a un point, et le point, c'est le séparateur de milliers. Donc, c'est pas le point de la virgule anglaise. Hein? Donc, ne pas se tromper dans la lecture. Hein? Donc, c'est... On voit bien que l'étendue de toutes les bandes radioamateurs, la plus la fréquence la plus basse, c'est en dessous du mégahertz, et la fréquence la plus haute, c'est 250 gigas. D'accord. Alors, les questions aussi portent sur la gamme de l'onde. C'est-à-dire qu'on va vous demander la bande des 21 mégas, elle est sur quelle bande? Et donc là, c'est une bande HF ou décamétrique. Où on va vous demander l'étendue des bandes décamétriques, par exemple. Et dans ce cas-là, il faut répondre de 3 à 30 mégas. Hein. Donc tout ça, alors ce sont des questions qui, à mon sens, sont limites hors sujet, parce que nulle part dans les textes, à part dans une annexe du RR, on vous dit que le décamétrique va de telle fréquence à telle fréquence. Mais sinon, nulle part dans les textes, on vous parle de ça. Hein? Donc, bon. Là, il y a aussi des questions, mais qui sont peut-être plus simples. C'est-à-dire qu'on va vous demander la largeur de la bande des 17 mètres. Donc, si vous ne savez pas que le 17 mètres, c'est 18 mégas, vous êtes un peu emmerdé, quoi. Alors, il y a un truc très simple pour passer de longueur d'onde en fréquence et inversement, c'est avec une calculette. On fait 300 divisé par la longueur d'onde et ça donne des mégahertz, ou 300 divisé par la fréquence en mégahertz et ça donne des mètres. Ça marche dans les deux sens. Donc c'est 300 divisé par. Alors, quand on dit par exemple la bande des 20 mètres, évidemment, 14 mégas, si on fait 300 divisé par 20, on voit bien que ça donne pas 14 mégas. Ça donne... On est un peu à côté, mais on essaye d'arrondir à chaque fois. C'est pour se donner une idée. Hein, c'est pareil, le 144, on dit que c'est la bande des 2 mètres. En fait, on se trouve plutôt à 1,90 m. Mais bon, c'est pour se donner une idée. Hein. Donc, faut pas prendre ça à la lettre. Mais ça donne une indication sur la fréquence sur laquelle on va se trouver. Hein, le 15 mètres, 300 divisé par 15, ça fait 20 mètres. Hein. Ça fait 20 mégas. Donc quand on dit la bande des 15 mètres, en fait c'est pas 15 mètres, c'est presque 16. D'accord ? Donc faut faire assez attention là-dessus. Voilà tout ce qu'on peut dire un peu sur ce tableau des fréquences, qui est relativement chiant à prendre, ça je l'avoue. Alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a très peu de questions sur les fréquences SHF et EHF. Hein, donc tout ce qui est au-delà de 2,3 giga, il y a quelques questions, mais l'essentiel des questions porte sur les bandes HF, VHF, UHF. Donc si vous voulez faire des impasses, parce qu'à un moment, il faudra peut-être choisir, si vous voulez faire des impasses, faites les impasses sur les SHF et les EHF. D'autant plus qu'il y a relativement peu de trafic dessus. C'est bien dommage, j'en conviens. Mais les bandes les plus actives restent quand même HF, VHF et UHF. Les statuts, on vient d'en parler. Alors les statuts, à chaque fois, c'est en référence au RR. Hein, c'est-à-dire qu'il y a dans le RR, il y a expliqué ce que c'est que le statut S525. Et ce que l'on a droit et pas droit. De toute façon, S525, c'est service primaire, donc il a tous les droits, le service primaire. Alors que lorsqu'on est en bande partagée, à égalité de droit, il y a une définition qui est donnée dans le RR toujours, pareil, et qui dit que le service à égalité de droit ne doit causer de brouillage préjudiciable et ne peut pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par un autre service. Alors c'est du langage onusien, ça. Voilà, mais bon, ça a le mérite d'être clair. Hein? On n'a pas le droit de s'embêter mutuellement, en clair. Alors, il y a relativement peu de bandes qui ont ce statut un peu particulier, puisque soit on est primaire, soit secondaire. Et pour toutes les bandes secondaires, alors là, on a un texte qui dit que les stations d'un service secondaire ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire, évidemment, et ne peuvent prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par des stations d'un service primaire. Mais ont le droit à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations de ce service secondaire ou des autres services secondaires. Alors la protection, c'est en fait un rappel à l'ordre, quoi, en fait. Ça se limite à ça. Statut D. Ah. Alors là, oh, je vois, il y a plein de questions là-dessus. Ça, c'est la bande des 50 mégas. La bande des 50 mégas a un statut très particulier en France. On fait partie des... Quand le RR est révisé à peu près tous les 3 ou 4 ans. Et systématiquement, la France demande une dérogation pour cette bande. Pourquoi ? Parce que la bande en France, elle est utilisée par le CSA. En clair, c'est tout ce qui est... Alors, il y a deux services qui sont utilisés. C'est des liaisons sol-train dans les gares de la région parisienne. Donc, c'est les caméras que vous avez sur les quais qui proviennent, en fait, de... Et c'est répété dans la cabine du conducteur. Et donc, ça passe par un petit émetteur et un petit récepteur qui sont très proches l'un d'autre. Donc, bon, a priori, ça devrait pas trop perturber, mais par principe de précaution, en région parisienne, du coup, l'émission d'amateurs est interdite sur cette bande. Et c'est même chose dans toutes les grosses agglomérations comme Lyon-Marseille. Le deuxième service, c'est des reportages sonores. Quand vous avez France 2 qui se balade avec des caméras et leur camion régie, ils utilisent ces bandes-là. Alors, est-ce qu'ils utilisent systématiquement? Je ne pense pas, mais ils peuvent l'utiliser. Donc c'est pour ça que cette bande, elle est affectée au CSA. Et en fait, le CSA a donné une autorisation au cas par cas dans certaines zones où le CSA n'utilise pas ces bandes-là. Et c'est pour ça qu'on a toute une liste de départements où où l'émission est autorisée avec une faible puissance, avec 5 watts, ou au contraire avec plus de puissance, avec 100 watts. Mais en dehors de ces départements, l'émission est interdite. Alors évidemment, à l'examen, c'est le truc classique, tel département, combien on a de watts autorisés. Ça, c'est du classique. On va faire un petit blanc sur 144 F6, GPX, opérant F6, KGL. Alors... Ouais, bah oui, alors il y a aussi un truc... Parce que j'ai essayé de faire une carte un petit peu. On peut déjà tous les 100 watts, ça, bon, c'est déjà la Réunion, c'est facile. Ça, c'est base, c'est facile. Et grosso modo, tous les 100 watts sont dans côté des Pays de Loire.
Ouais, j'ai remarqué ça.
Ouais. Hein? Et de même que tous les 5 watts sont grosso modo tout ce qui est un gros quart nord-est de la France. Hein, mais tout ce qui est limite frontière espagnole ou méditerranée vers le bas, ça c'est interdit. Et de même tout ce qui est vers les limitrophes Italie. Et alors à l'intérieur des 5 watts, en plus il y a des départements qui ne sont ouverts que en partie. Et ça, cela, ce grosso modo, c'est toute la vallée du Rhône. C'est toute la vallée du Rhône où le département il est ouvert pour une partie. Alors bon, c'est des trucs vachement... Les Hautes-Alpes, il y a deux cantons qui sont pas ouverts, le canton de l'Aragne-Montgélin, Montéglin et de Serres. Je sais même pas où ça se trouve. Mais bon, ça donne déjà, évidemment là-dessus, il y a des tas de questions. Hein. Alors en règle générale, les questions sont posées sur les départements qui sont ouverts en totalité au trafic. Et pas ce, pas, on va pas demander le canton de machin, est-ce qu'il est ouvert au trafic? Parce que alors, sinon, là, au secours. Comment? Ben non, mais il y a des questions dessus. Il y a des questions sur le 50 mégas, alors ce sont des questions tordues. Alors, est-ce qu'on fait l'impasse Mais bon, comme c'est assez rébarbatif, ça rentre assez facilement. Ah ouais, bah oui, c'est récitation là. Alors, un commentaire qui concerne la bande des 136 kHz. Elle est ouverte à titre au service amateur à titre secondaire depuis le 30 décembre 99. C'est pour ça que dans la décision d'origine, qui est la 97-452, elle n'apparaît pas. Et en fait, il y a une décision complémentaire qui est venue ajouter ce truc-là. Ah. Donc le texte, je dirais, fondateur de tout ce plan de bande, c'est la 97-452. C'est une décision ART. Mais dedans, il n'y avait pas le 136 kHz. Il a été ouvert après. Et ce qui est important, sur le 136 kHz, on a droit qu'à 1 watt. Mais c'est un watt PAR. On va voir ce que ça, quand on fera la technique, ce que veut dire PAR. Ça veut dire puissance apparente rayonnée. Donc c'est l'équivalent. C'est comme si vous aviez, c'est comme si vous émettiez 100 watts dans une antenne parfaite. Dans 1 watt dans une antenne parfaite. Or, sur ces fréquences-là, c'est-à-dire 2200 mètres, ne serait-ce que faire un quart d'onde, ça fait quand même 500 mètres de long. Donc faire une antenne qui fait 500 mètres de long, pour nous, petits radioamateurs, 500 mètres, ça veut dire 500 mètres et éloigné de tout, comment dire, de tout ce qui peut gêner, c'est-à-dire de tout obstacle. Donc quand on dit 500 mètres, c'est pas 500 mètres alignés sur des poteaux, hein. Parce que du coup, on est très proche de la Terre par rapport à la longueur d'onde. Donc ça serait 500 mètres en l'air. Donc à part un ballon, je vois pas trop comment on peut faire. Et encore. Donc obtenir un watt PAR sur cette fréquence-là, il faut mettre déjà quelques watts dans l'antenne, enfin à l'entrée de l'antenne, pour qu'il sorte l'équivalent d'un watt PAR. Ah ben non, ben elle a que de la perte justement. Voilà. Elle a que de la perte l'antenne. 3 kilos par on va faire un petit blanc F6 GPX au port F6 KGL. 80 milliwatts avec 17 de mètre bien, ça fait quoi? Bah multiplié par 40. Multiplié par 40. Voilà, moi j'ai dit à 16 dB, j'arrondis à 16 pour faire plus acide. Ouais, bah c'est ça, ouais. Donc ça fait 40. On va arrondir, multiplié par 40. Ça fait 3400 milliwatts. 3 watts 4. Pour le Wi-Fi. Ouais, 3 watts 4, mais tu fais chauffer un verre d'eau, hein. C'est ce que je te disais. Alors, est-ce qu'on peut entendre plus fort? Ben, je sais pas si je vais essayer. Donc, on continue. Bah, Alors Michel 17DB, tu sais pas ce que ça fait?
Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Ça fait tellement longtemps qu'il a passé l'examen. Non, 11. Bah oui. Bon, autre chose, la bande des 10 mètres. Question classique celle-là. La bande des 10 mètres, elle peut être utilisée par le ministère de la Défense. Alors, pour des besoins intermittents, c'est gentil. En gros, c'est l'armée qui fait mumuse lors des manœuvres. Maintenant, ils sont un peu plus calmes maintenant au niveau des manœuvres, donc. Et donc, ils peuvent utiliser une puissance jusqu'à 12 dB watts, ce qui veut dire en PAR, ce qui veut dire que c'est grosso modo une quinzaine de watts. Mais bon, c'est suffisant quand même pour emmerder le monde. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que cette note F017 du tableau des fréquences, c'est un document qui est diffusé par l'ANFR, lequel document est payant. C'est-à-dire qu'on peut pas le... évidemment, moi j'ai récupéré l'information sur Internet et autres, mais si on veut avoir le document de base qui parle de ça, en fait, faut payer. Donc, on peut se poser la question si on a le droit de poser une question comme ça sur un document qui n'est pas public, à libre d'accès. Hein? Donc, bon, ça c'est pour la petite blague. Alors, les commentaires. Oui, il y a beaucoup de blancs, oui, effectivement. Mais de temps en temps, je laisse parler les gens qui sont à côté de moi, mais ils n'ont pas de micro, comme moi, un micro-casque, donc effectivement, on a plus de mal à les entendre. J'essaye de reporter ce qu'ils disent, mais c'est pas toujours évident. Alors, la bande des 2 giga 3. Alors, la bande des 2 giga 3, il y a une autre... Alors ça, celle-là, elle est particulière. La bande, ce qu'on appelle la bande des micro-ondes. Hein? Sur les fours à micro-ondes fonctionnent sur cette bande-là. D'ailleurs, le système Wi-Fi aussi, je le dis au passage. C'est pour ça que tout à l'heure, on calculait combien de temps hein, le verre d'eau allait chauffer devant le... devant l'antenne Wi-Fi. On n'a pas encore trouvé, on va faire une expérimentation là-dessus. Comme les radioamateurs sont des grands expérimentateurs, on va faire chauffer un verre de café. Cette bande, elle est, il faut demander l'autorisation pour émettre sur la bande de 2.3 à 2.310. Et donc cette autorisation, elle sera accordée au cas par cas. Par l'ARCEP. Et sur cette même bande, donc de 2.310 à 2.360, l'émission est autorisée sous réserve d'autorisation précaire et révocable du ministère de la Défense obtenue par l'ARCEP. Donc c'est pareil, on a le droit d'émettre, mais il faut en demander l'autorisation préalable. Alors sur le commentaire H, ça concerne uniquement le satellite, ça. Le commentaire H, c'est que le service d'amateur par satellite ne peut fonctionner qu'à condition qu'il ne résulte pas de brouillage. Hein, puisque on est dans le sens terre vers espace, espace vers terre, il faut que le satellite ne perturbe pas les émissions qui sont faites en direction de la Terre, puisque là, quand on est en H, à chaque fois, vous remarquez que quand on arrive sur la Terre, on est en statut C. C'est-à-dire on est en statut secondaire. Alors que partout ailleurs, on est en statut primaire. Quand on est en statut primaire, le satellite ne peut pas perturber d'autres personnes, puisqu'il ne peut perturber que du radioamateur. Par contre, lorsque le satellite retransmet des émissions en secondaire, il faut faire attention que le satellite ne brouille pas une station primaire qui soit sur la Terre. C'est logique. Bah, ça reste dans la logique de onusienne, disons, avec ces fameux brouillages préjudiciables. la bande des 75 et 76 gigahertz est attribuée en service primaire jusque à la fin de cette année. C'est-à-dire qu'elle repassera en statut secondaire à partir du 1er janvier 2007. Alors, j'ai encore pas vu de questions dessus. Why not? Alors franchement, 75 gigas, ça commence à être très élevé. Hein. Et je me demande s'il y a beaucoup de monde qui trafique sur cette bande-là. Ouais, non, mais c'est pas... Ouais, ouais. Il y a très peu de... Alors, si ça recoupe, c'est pas normal, parce que là, j'ai viré tout le monde d'Internet. Donc, vraiment, c'est qu'il y a vraiment un autre souci. Hein. Donc, normalement, ça devrait plus couper maintenant. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire sur le tableau des fréquences. Alors, bah, maintenant, la balle est dans votre camp. Hein. Bachotage. Mais ça rentre relativement facilement quand même. Hein. Je rassure. Et puis bah ceux qui font de l'écoute sont un peu privilégiés puisque ils savent où écouter et ils connaissent les limites de bande. Donc voilà. Les puissances et les classes d'émissions autorisées. Alors les classes d'émissions autorisées, on en a déjà parlé la semaine dernière. Donc les fameuses 31 classes. Et 6 classes pour les F0. Donc ça c'est page 13 où on a toutes les classes d'émissions autorisées. Et la puissance maintenant, alors la puissance, il y a beaucoup de questions dessus aussi. Hein. La puissance, alors classe 3, donc c'est les novices, ils ont droit à 10 watts. Et sur le 144 uniquement, 144 à 146, y compris aux Antilles et en Guyane. Enfin, alors que la bande elle fait 144-148 et les F0 n'ont droit qu'aux 144-146 en Antilles, aux Antilles et en Guyane. Non, ils n'ont pas la totalité de la bande, ils ont la même chose qu'en France métropolitaine. Bah non, mais on aurait pu dire que c'est toute la bande des 2 mètres aux Antilles. Ils gueulent pour avoir l'intégralité de la bande des 2 mètres. Il la voudrait. Il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas. Enfin. Donc on continue les puissances. Donc les puissances sont identiques en classe 1 et en classe 2. Donc F4, F8, c'est la même puissance. Décamétrique, c'est-à-dire jusqu'à la bande des 28 mégas, c'est 500 watts. Sur la bande des 28 mégas, c'est 250 watts. Et au-delà de 30 mégas, c'est 120 watts. Et ça, quel que soit, c'est la puissance à l'entrée de l'antenne. Ou à la sortie de l'émetteur, comme on veut. Hein. Mais ça veut dire que derrière, on peut avoir une antenne qui a du gain. Donc on peut obtenir une puissance PAR, sauf sur la bande, cette fameuse bande des 136 kHz, mais partout ailleurs on peut utiliser les antennes que l'on veut. Et donc on peut obtenir du gain et avoir plus de puissance en PAR. Okay. Alors la puissance peut être limitée sur toutes les fréquences supérieures à 1300 MHz. Mais ça, c'est pour des raisons, je dirais, de pas de sécurité, mais disons des raisons, c'est lié toutes les téléphones portables et tout ça, quoi. Puisque plus on monte en fréquence, plus il est facile d'obtenir du gain. Hein. Donc, au-delà de 1,3 GHz, donc de 1300 mégas, l'ARCEP peut limiter le gain des antennes. Elle ne le fait pas, mais elle peut le faire. Quand on parle de puissance maximum, alors ça c'est important, c'est une définition, peu de questions dessus, mais ça permet quand même de préciser les choses. Il s'agit de la puissance en crête de modulation. Donc quand on est en BLU, on est bien en crête et pas en puissance moyenne. Hein? Donc c'est la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-RSM 326.6. Alors, entre parenthèses, la 326.6 a été abrogée. Et dans la celle qu'il remplace, on parle plus de BLU. Donc comme ça, mais bon, comme ça on est bien avancé. Et donc cette fameuse 326.6, elle disait que bon, il fallait moduler l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux dans le cas de la BLU. Et donc c'est pour ça qu'il faut le générateur de ton. Le générateur de ton, c'est un objet indispensable à une station de radio amateur, même si quasiment personne n'en a. Et quand on est en BLU, le générateur de ton, c'est ce qui permet de déterminer la puissance crête que l'on sort. Et quand pour les autres émissions, donc AM et FM, donc là, on est en puissance porteuse. Donc là, alors c'est assez flou, puisqu'on n'a pas vu ce que ça voulait dire, ce qu'était une modulation. Mais bon, ça c'est des définitions qu'il y a à connaître. Et on reverra ça quand on fera, quand on parlera des types de modulation, mais à la fin du cours, au mois de juin maintenant. Une fois qu'on aura fait le cycle complet. Alors, la seule classe d'émission non autorisée pour les fréquences inférieures à 30 mégas pour les classes 2, c'est toutes les classes d'émission qui se terminent par un A, c'est-à-dire en télégraphie auditive. Alors ça, c'est encore un truc. Pourquoi peut-on demander? C'est parce qu'en France, l'examen de Morse n'a pas été supprimé. Pour des raisons... parce qu'il y a certains pays européens, pour ne pas déjà de la CEPT, qui continuent d'exiger le Morse pour trafiquer sur 30 mégas chez eux. D'ailleurs, entre parenthèses, les Belges qui avaient supprimé l'examen de Morse et qui avaient donné donc aux nouveaux radioamateurs qu'ils aient ou pas le Morse les mêmes séries d'indicatifs, ils étaient tous emmerdés pour quand ils allaient à l'étranger dans des pays qui exigeait le Morse. Donc ils savaient plus à qui ils avaient affaire. Et donc la Belgique là est revenue en arrière et a rétabli l'examen de Morse.
Ils veulent mettre les OM3, c'est correspond au F0.
En voilà. Ouais. Ah non, mais donc la France, on a gardé nous et on sait reconnaître quelqu'un qui a l'examen de Morse d'un autre. On a gardé cette... Et comme en fait on aurait les mêmes droits, et ça c'est pas possible en France. On peut pas avoir deux examens différents, en disant qu'il y a un truc complémentaire, sans qu'on ait des droits en plus. Donc le droit en plus, c'est pas grand chose, c'est de pouvoir émettre en télégraphie auditive. Mais rien ne vous empêche de faire du Morse avec un ordinateur. Encore un truc bien français. Je sais pas. Mais pourquoi? Mais quoi? Bah oui. Bah non, mais bah justement, tous les F1 et F4 ont demandé les mêmes droits que les F8 et les F5. Donc je veux dire, c'est un nivellement par le haut, ça. Ouais, bah à ce moment-là, et les classes F1 et F4, ils vont avoir le même privilège. Ah bah non. Oh non, arrête tes conneries. F6 GPX opérant F6 KGM, je vais laisser un petit blanc sur 144. Bon, donc F6 GPX qui reprend. Alors, donc petite, après ce petit aparté sur les classes 2 et la spécificité française, donc on revient à la... Alors ça, c'est sur le gain des antennes, on vient d'en parler. Alors, on a des questions aussi sur tout ce qui concerne le code de l'urbanisme et les servitudes du code des PTT. Alors, les servitudes, c'est quoi ? C'est que on a certaines stations, alors qui sont qui appartiennent à l'administration ou pas, mais ce sont des stations qui sont qui appartiennent, qui font un service public. Et celles-là sont protégées pour que on les perturbe pas. Voilà, qu'il n'y ait pas d'interférence dessus. Et donc ces stations, déjà, elles sont très limitées, elles sont définies par des commissions qui s'appellent la COM6, la commission consultative des sites et servitudes. Et alors, et en fait, à l'intérieur, quand on a défini le périmètre d'une station de l'État, que je vais appeler station de l'État, mais qui peut ne pas être, ça ne peut ne pas appartenir à l'État. Par exemple, France Télécom, c'est pas l'État. C'est un service public. Et donc, une fois qu'on a déterminé le périmètre de cette station, on n'a pas le droit d'émettre dans un périmètre de 1000 mètres autour de ce périmètre. Non, une clinique, c'est pas un service. C'est
un peu comme une entreprise privée assurant un service public. Non, c'est pas ça.
Non, non, non. Non, puis en plus, attends, c'est pas n'importe quel service. C'est pas parce que tu as une antenne de gendarmerie au-dessus de la gendarmerie que pour autant elle va avoir cette spécificité. Mais en plus, attends, c'est écrit dans le plan d'occupation des sols. C'est écrit au poste, bah oui. C'est écrit sur le poste, donc je veux dire, quelqu'un qui achète, au même titre que les zones inondables et autres trucs, hein. Bah oui, et puis c'est marqué. Bah oui, mais c'est à titre de renseignement. Ah bah oui, bah oui, évidemment. Non, mais tu regardes avant, mais de toute façon, déjà tu regardes à l'œil, tu vois que s'il y a un caserne mortier à côté, c'est difficile. Ah bon, ça c'est clair. Alors donc, ça n'est pas toutes les stations qui sont dans cette réglementation, mais bon. Il peut y en avoir. Il faut se renseigner. Et parce que à l'intérieur, il y a trois catégories de stations, hein. Il y a la troisième catégorie, il se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. On n'a pas le droit d'émettre à l'intérieur de. Mais bon, je veux dire, il faut être tordu pour installer une station radioamateur à l'intérieur de du périmètre. Et en fait, la deuxième catégorie, c'est on a le droit, mais il faut prévenir. La troisième catégorie, c'est interdit. comme ça c'est tranquille. Voilà. Et la deuxième chose, c'est concernant le code de l'urbanisme. Alors ça, le code de l'urbanisme, c'est sur les antennes et les pylônes. Alors, je ne fais pas faire un cours sur le code de l'urbanisme, mais grosso modo, tout pylône qui dépasse 12 mètres au-dessus du sol. Alors, quid des pylônes qu'on met au-dessus d'un immeuble ? Puisqu'on est au-dessus du sol, on est à plus de 12 mètres au-dessus du sol. Non, mais d'accord, mais si tu es sur un immeuble qui fait 40 mètres, si tu mets un pylône qui fait 3 mètres, est-ce qu'il est soumis au code de l'urbanisme ou pas ? Normalement, oui. Puisque c'est 12 mètres du sol naturel. En plus. Du sol naturel. Ah non. C'est le sol naturel. Donc c'est celui qui est écrit sur ton sur le registre du cadastre là. Ah bah non, mais d'accord, mais si tu te fais une butte. Non, bah si tu te fais une butte. Tu fais une butte, tu mets ton pylône dessus. Bah non. Tu fais un mètre de plus, si ta butte elle fait un mètre, ton pylône il fera il est surélevé d'un mètre. C'est le sol avant travaux. Défini par l'IGN. L'IGN, bah, je sais pas, ou l'IGN, ou je sais pas qui. Celui qui fait l'arpentage. Qui définit où est, quelle est la hauteur, c'est le géomètre. Donc, un pylône qui passe 12 mètres au-dessus du sol naturel, soumis. Alors, c'est très compliqué parce que on devrait être soumis à permis de construire. Mais comme nous on fait partie des alors non, comment ils appellent ça? Alors les activités autorisées en vertu de l'article 33 du code des postes et communications électroniques sont exemptés du permis de construire. On est exempté, mais pour autant, on est obligé de faire une déclaration de travaux. Oui, au-dessus de 12 mètres. Alors, il y a le pylône qui doit faire moins de 12 mètres par rapport au sol naturel. Deuxièmement, que l'antenne fasse moins de 4 mètres dans une de ses longueurs. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas excéder 4 mètres. Alors, une antenne, surtout en décamétrique, qui dépasse pas 4 mètres, j'en connais pas. Hein. Donc, à la limite, toute installation de ce fait radioamateur est soumise à cette déclaration de travaux. Est-ce que les antennes filaires sont considérées? Non. Ben non, parce que non, ben il y a eu des jurisprudences là-dessus. Si, il y a eu des jurisprudences comme quoi les antennes filaires n'étaient pas. Oui, mais c'était sur un bateau, c'est pas pareil. Alors, les questions. C'est le pylône ou le pylône plus la flèche. Alors, quand on dit pylône, c'est l'ensemble du pylône. Donc, c'est pylône plus flèche. Plus, éventuellement, si vous mettez une antenne au-dessus du rotor, une antenne verticale au-dessus du rotor, on se peut se poser la question si ça fait pas partie du pylône, ça. Là, en tout cas, c'est le pylône plus la flèche, sûrement. Au-delà de la flèche, si on met une antenne verticale, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pylône plus flèche. Ça c'est clair. Et quant à la question de Jean-Louis, tous les services de police, de gendarmerie, militaire, non, c'est pas là, c'est par référence aux servitudes. En fait, il faut regarder le plan d'occupation des sols qui est à la mairie, savoir si une installation, si vous avez une installation de ce type-là chez vous, savoir si elle est soumise ou pas à cet article. Alors c'est le L57 du code des postes et communications électroniques, et c'est très clair, hein, il y a deux articles, il faut voir si c'est une installation de première catégorie, parce que ça peut très bien être une installation de troisième catégorie, auquel cas il n'y a strictement aucune servitude. Les seules servitudes qui nous sont imposées, c'est vis-à-vis de ceux de première catégorie où il est interdit d'émettre. Hein, alors dans cette zone de garde, qu'est-ce qu'il était là, hein, qu'est-ce qu'on a dit? Il est interdit, alors, il y a une zone de protection qui va au-delà de la zone de garde. Dans la zone de protection, il est interdit de produire des perturbations supérieures à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. Avec ça, c'est vachement clair. Voilà, encore une fois, c'est combien de temps met le fût du canon à refroidir? Un certain temps. Là, c'est pareil, c'est une certaine valeur. Et dans la zone de garde, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible. Alors, quand on dit matériel, c'est pas spécialement radioélectrique, hein. C'est du matériel électrique. C'est-à-dire que c'est pas spécialement contre les radios amateurs, hein. Voilà, les blancs d'œufs, on les fait à la main et non pas au robot. Donc de matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent leur tutelle sur celui-ci. Donc en règle générale, je vous rassure, les installations de troisième catégorie sont en plein dans les champs la plupart du temps, hein. Parce que sinon t'as quoi toi à côté? Le champignon, il doit pas être. Mais oui, mais c'est pas un troisième catégorie celui-là. Ouais, mais c'est pas un première catégorie celui de Romainville. Le tien, c'est un première catégorie à côté de chez toi? C'est un zone rouge? Non, mais c'est 1 kilomètre, toi? T'es dedans? T'es à l'intérieur de la zone, toi? Mais c'est écrit au plan d'occupation des sols, ce truc-là. Bah, tu es en mairie. Ah non, attends. La mairie ne te donne pas la procédure d'autorisation d'émettre. Elle te dit, c'est interdit d'émettre là. La zone est interdite là, mais elle ne te donne pas la procédure pour demander l'autorisation. Ah oui, puis en plus, il n'y a plus rien sur la zone. Ah, l'émetteur n'existe plus en plus. Ah, ça, c'est extraordinaire. Et la zone, elle existe toujours, elle. Bon, bah donc, voilà. Donc, pour revenir au code de l'urbanisme, on a donc le pylône. Alors, quand on dit pylône, je le répète, c'est avec la flèche. L'antenne qui est... au-dessus, t'as ton pylône, la cage rotor, et au-dessus, la flèche où tu mets tes antennes. Bah oui. Quand tu calcules la hauteur d'un pylône, c'est tout le pylône, c'est pas spécialement la partie où tu peux monter dessus, en triangulaire, là. C'est support de, en fait, quand on dit pylône, c'est le support de l'antenne. Donc, c'est bien dire ce que ça veut dire, hein. Donc, c'est tout compris. Et donc, ça, c'est par rapport au sol naturel. Deuxièmement, l'antenne ne doit pas dépasser 4 mètres de long dans toutes ses longueurs. Et alors, il est écrit dans le texte. Ah, mais tu demandes tu faut que tu fasses une demande, une déclaration de travaux. Ah bah oui, mais bon. Eh ben oui, tu rigoles, recours des tiers, hein, si tu l'as pas fait. Un emmerdeur, il vient, il te fait casser le truc. Alors que sinon... Ils ont pas mesuré. Bah, il y a une flèche en plus. Ha ha. Ouais, bon. Donc la longueur de l'antenne, c'est 4 mètres. Donc en décamétrique, je vois pas comment on fait. Alors, comme on disait tout à l'heure, pour les antennes filaires, il y a eu de la jurisprudence là-dessus, et la jurisprudence indique, donc en fait, ça veut dire qu'il y a eu des litiges, et la jurisprudence dit que les antennes filaires ne sont pas limitées à ces 4 mètres. Quand on dit 4 mètres, quand c'est le boom de l'antenne. Le boom ou les radians. Voilà, ou les radians. Mais en aucun cas une antenne filaire. Mais oui, mais la moindre antenne décamétrique. La moindre antenne décamétrique fait plus de 4 mètres. Même un dipôle rotatif, tout à fait. N'importe quoi fait plus de 4 mètres. Alors, la seule exception, c'est ce que je vous dis, ce sont les antennes filaires. Où il y a eu de la jurisprudence qui disait que cette antenne n'est pas considérée comme une antenne vis-à-vis du texte. Par contre, une antenne que vous montez sur un pylône de plus de 12 mètres, c'est le pylône que vous déclarez. Et quand vous faites une déclaration, vous donnez dans la déclaration le pylône plus les antennes. Enfin, dernière chose, les paraboles. Dans le texte, il est marqué que c'est un réflecteur. Les réflecteurs ne peuvent pas dépasser un mètre. Mais en fait, quand on dit réflecteur, c'est pas écrit en tout gros dans le texte, mais quand on dit réflecteur, c'est réflecteur parabolique. Donc en fait, ça concernait essentiellement les antennes satellites des particuliers, parce qu'en fait, il s'avérait qu'il y en a certains qui mettaient des énormes antennes sur les toits, et qu'à la moindre tempête, il y a tout qui s'envolait. Donc pour éviter ça, les textes ont rajouté ça pour éviter que les gens mettent n'importe quoi sur les toits et que tout s'envole à la première tempête. Donc c'est pour la prise au vent, exactement. Et puis on sait qu'au-delà d'un mètre, les gains sont plus aussi difficiles à obtenir. Enfin, je veux dire, que tu mettes une parabole de 80 cm, une parabole d'un mètre, il n'y a pas une grosse différence de gain. Donc c'est pour ça que c'est limité. Voilà, exactement. Tout ça, bon, bah c'est déclaration de travaux. Déclaration de travaux, c'est relativement simple à faire. C'est en mairie, il y a un imprimé qu'on va chercher, qu'on remplit, qu'on donne à la mairie, et on affiche cette déclaration de travaux pendant 3 mois à côté de l'antenne. À côté de l'endroit où on compte monter l'antenne, parce qu'on n'a pas le droit de la faire avant, puisque c'est une déclaration de travaux. Il faut avant, et non seulement attendre d'avoir le faire, mais afficher la déclaration de travaux pendant 3 mois, avant de commencer les travaux. Et les travaux, il faut les faire dans les 3 ans par rapport à la déclaration de travaux. Bah, c'est ce que tu avais fait à Saint-Denis. Alors, nous y voilà. C'est pas au programme. Mais cas particulier pour les gens qui ont la chance d'habiter dans une zone classée. Dans une zone classée, c'est pas une déclaration de travaux qu'il faut faire, c'est un quoi ? Je me souviens plus. C'est une autre c'est un autre papier qu'il faut. C'est pas un permis de construire. Permis de construire, c'est quand tu es sur un bâtiment classé. Oui, c'est les bâtiments de France qui te donnent. Mais justement, mais c'est pas un permis de construire. C'est un nom. C'est ce que je cherche. Une demande d'autorisation de travaux. C'est une demande d'autorisation de travaux. Non. Une déclaration de travaux, c'est pour le recours des tiers. C'est-à-dire que tout le monde est au courant de ce que tu vas faire. Personne ne peut t'empêcher, mais tout le monde est au courant de ce que tu vas faire. C'est une déclaration de travaux. Une demande d'autorisation de travaux, tu demandes, est-ce que j'ai le droit ? Et c'est monsieur l'architecte des bâtiments de France qui va te dire si tu as le droit ou pas le droit. Alors ça, c'est en particulier. Ah oui. Mais Ben oui, ben Christian qui était à côté de la basilique de Saint-Denis, il y a eu droit, hein. Alors comment vous faites? Mais moi je suis sur un périmètre classé. Bah oui. Bah oui.
Le syndic qui m'a jamais répondu.
Il connaissait pas. Donc ça, périmètre classé. Il y a aussi, alors il y a des zones de protection de patrimoine architecturel, urbain et paysager. Ouais, les parcs. Bah oui. Bah oui, rigolez pas.
Bah si dans les parcs, il y a une solution.
Ouais, alors la solution, c'est effectivement, c'est l'antenne isotrope. Elle est peinard, on la voit pas trop. Et en plus, ça marche. Voilà. Bon. Et pour, ouais. Et pour régler l'antenne isotrope, on prend la charge fictive, là, comme ça, on est peinard. Dernière chose, on a les radios amateurs, quand même, ont quelque chose, une loi qui va dans leur sens, qui est le droit à l'antenne. C'est une loi très vieille, de 66, qui s'appelle le droit à l'antenne, qui n'a pas été regroupé dans un code quelconque, qui est une loi, je dirais, qui vit sa vie toute seule, puisque je dirais que les trois quarts des lois en France sont regroupées dans des codes. Hein. Celle-là n'y est pas. Et donc, elle prévoit que les radios amateurs ont le droit d'installer leurs antennes sur les immeubles collectifs, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Ah, donc, on peut se... et c'est un texte qui est souvent rappelé, et en particulier dans une circulaire assez récente, enfin, assez récente, elle date de 88 quand même, elle a plus de 20 ans, enfin, elle va avoir 20 ans. Qui dit que lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, le déclarant, donc celui qui habite l'immeuble, est réputé posséder un titre l'habilitant à exécuter les travaux. Donc on a le droit d'installer par nous-mêmes et d'entretenir les antennes. Bien évidemment, il faut faire, il faut s'assurer pour les dégâts éventuels occasionnés par cette antenne. Voilà tout ce qu'on... Ainsi s'achève le cours de ce soir. J'espère que la qualité du son n'a pas trop gêné. Alors, une petite question. Étant donné que vous enregistrez les cours, pouvez-vous me les faire parvenir par mail? Alors, par mail, ça, je pense pas que ce sera possible, parce que là, je l'enregistre en format web. Et là, j'en suis déjà à 210 mégas. Donc, une fois que je l'aurai compressé en MP3, ça va dû faire du 20 mégas. Et j'ai peur que les mails ne fonctionnent pas avec des fichiers aussi gros. Donc, je les ai enregistrés, mais sans... je sais pas comment on va pouvoir les diffuser par la suite, hein. La semaine dernière, il faisait 208 mégas en wave. Je l'ai pas compressé en MP3 encore. Je vais le faire ce soir, tout au moins dans la semaine. Et je sais pas comment je vais les diffuser après. Ce n'est qu'un essai. Je sais pas si c'est vraiment si c'est la solution. En tout cas, je pense pas que ce soit pas mal, parce que ça va être trop gros. Et toutes les boîtes aux lettres vont refuser ce genre de choses. Alors effectivement, on peut le mettre sur un site web, mais on va y réfléchir. On va y réfléchir, donc on va voir. OK pour tout ça. On salue la Martinique qui vient de nous joindre là, Julien. Bonjour Julien. Et donc on va se terminer pour ce soir. Semaine prochaine, on fait le chapitre 3. Normalement sans trop de problèmes parce qu'il est relativement court, il y a peu de choses à dire. Encore des choses à apprendre, à faire un peu de bachotage encore une fois, mais bon, c'est le chapitre le plus simple et le plus court, comme vous allez voir. Bonsoir à tous, et puis donc à la semaine prochaine, même heure et même mode. Bon week-end et révisez bien. Bye bye, à une prochaine fois. F6GPX, émission terminée sur 144 et on va couper la station et couper l'ordinateur aussi. F6GPX, émission terminée, bye bye. Et puis bonne soirée à tous sur TeamSpeak là. Nous étions 10 ce soir, donc dont 3, 4, 5 SWL. Donc c'est déjà sympa. Bonsoir et puis et à vendredi prochain. Et j'essaye de récupérer ces fichiers via ces fichiers web. Et puis je sais pas trop comment on va les diffuser par la suite. Je sais pas trop si on peut en faire quelque chose surtout. Voilà, bonne soirée à tous, à vendredi prochain. Au revoir.